Le premier lundi du mois, c'est l'espace associatif de Quimper-Cornouailles qui nous prodigue ses bons conseils. Aujourd'hui, le responsable du pôle ressources, Guillaume Hardy, nous rappelle que l'intérêt de la vie associative, c'est notamment d'être plus démocratique et plus collective, comme le veut la loi Pierre Valdec-Rousseau de 1901 qui a fondé les associations de France.
Un des grands principes de la loi 1901, c'est, outre la question de la non-lucrativité, c'est la libre administration. Et à aucun moment dans cette loi, il est dit que, déjà, il faut un président, un secrétaire, un trésorier. Il faut être l'association, c'est bien la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'associent. Et on s'arrête là. Hein. Et la question de des mandats, elle est libre du point de vue des assos.
Donc plus ça va, plus en fait il y a des associations qui se créent à présidence collégiale. Alors qu'est-ce que c'est exactement le principe ?
Alors une présidence collégiale, en soi, ça n'a pas tellement de sens. C'est un groupe de personnes qui sont un petit peu plus motivés, un petit peu plus déterminés, qui ont un peu plus de temps à consacrer à l'association que les autres et qui se disent que bah, voilà, ils vont consacrer ce temps-là pour l'animer et pour la faire vivre. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. On a d'abord, quand on prend les collégiales, si on voit des associations qui ne sont pas déclarées, par exemple un groupe Facebook, des gens qui décident de faire des choses ensemble, c'est bien la définition d'une association, des gens qui s'associent pour faire quelque chose. Ils ne sont pas forcément déclarés, ils n'ont pas forcément de mandataire, de représentants, et pour autant, ils agissent et ils produisent des choses. Donc on peut avoir des organisations comme ça qui sont extrêmement horizontales, en réseau, et sans pour autant de présidence. Ensuite, on a un mode un peu plus classique qui sont le président, secrétaire, trésorier, et très souvent on voit des présidents, des vice-présidents, des trésoriers adjoints, des secrétaires adjoints. Finalement, on ne définit pas tellement leur rôle. Hein, et on a un titulaire du poste qui fait le boulot et un adjoint ou un suppléant qui est là quand elle est malade, absente, pas disponible et qui finalement n'a pas tellement de poids dans la façon de fonctionner sur ces rôles-là, qui n'est pas toujours très au courant de ce qui se passe. Alors du coup, de plus en plus d'assos se disent, faisons plutôt des binômes, plutôt que d'avoir un truc de hiérarchie entre un secrétaire et un secrétaire adjoint, ayons deux secrétaires, voyons deux trésoriers, et pourquoi pas deux présidents, ce qui permet de s'épauler, ça veut un niveau de solidarité supplémentaire. Et puis quand on va un petit peu plus loin, du coup, on retrouve des présidences qu'on appelle plus, enfin des directions qu'on appelle plus collégiales, hein, où on ne définit pas les rôles, où on a un groupe de personnes, 5, 6, 10, qui s'organisent, mais qui font office de conseil d'administration et qui s'organisent ensemble pour définir les missions, les tâches, les choses à faire pour faire vivre cette association et qui n'appellent pas forcément, du coup, les gens par des titres de secrétaire, président, trésorier. On peut appeler le chargé de relations extérieures, le porte-parole, la personne qui va s'occuper des finances, ou etc. Donc, il y a plein de manières de s'organiser qui sont très très différentes et qui doivent finalement être en lien avec la réalité du collectif et la réalité des missions que se donne l'association.
Mais est-ce que l'administration s'adapte à ces situations ? Je pense par exemple au fameux formulaire CERFA qu'on doit remplir quand on a un nouveau bureau, enfin un nouveau conseil d'administration.
Tout à fait. Non, au niveau des préfectures, l'administration a tous les outils qu'il faut pour prendre en compte ces différentes appellations et ces différents modes de fonctionnement. Le problème, il n'est pas tant au niveau des préfectures qu'au niveau de certains autres partenaires. Je pense par exemple aux banques. Quand on va voir son banquier, par exemple, lui, il veut avoir un trésorier, mordicus. Et il y a un peu de pédagogie, des fois, à faire à ce niveau-là. Donc le blocage, il ne vient pas de l'État, ils ont tous les outils, leurs menus déroulants prennent en compte énormément de cas de figure. Donc c'est pas le problème. Le CERFA est très adapté à ces modes de fonctionnement-là.
Et imaginons, on ne le souhaite pas, mais qu'il y ait un problème avec la justice. D'habitude, c'est plutôt le président qui est responsable. Donc là, s'il n'y a pas de président identifié, qui est responsable ?
Alors d'habitude, le président n'est pas responsable. Le président, il représente une personne morale. Le président, il est responsable quand lui, personnellement, il commet une faute de gestion, il commet une infraction. Mais il n'est pas responsable des agissements et des décisions que prend l'association si l'association prend bien ses décisions de manière collective, c'est-à-dire traditionnellement au niveau du conseil d'administration. Voilà. Dans une collégiale, c'est exactement la même chose. C'est la collégiale qui prend les décisions. Et après, on a des gens qui sont mandatés pour mettre en œuvre ces décisions-là. Donc finalement, la question de la responsabilité, elle n'est pas tellement différente dans une collégiale ou dans une association classique avec une belle pyramide, comme on les voit traditionnellement. Le truc qui se passe néanmoins dans beaucoup d'associations avec un président nommé et un seul, c'est qu'on se met dans la tête que le président est le chef et donc l'unique responsable. Et donc de ce fait, cette personne-là va vouloir concentrer les décisions, concentrer les responsabilités, parce qu'il s'imagine être responsable de tout, donc il veut prendre lui-même les décisions, et il se met lui-même, dans ces positions où il se trouve personnellement responsable des choses. Mais normalement, dans un statut classique, on a bien des mentions de l'ordre de l'association est dirigée par un conseil composé de X membres. Et donc, dans une association classique, c'est bien le conseil qui est responsable en cas de problème, en cas de dommage, en cas de question liée à la responsabilité civile. Bien entendu, ce n'est pas la même chose quand il s'agit de responsabilité pénale. Là, les personnes sont responsables individuellement.
De leurs propres actes.
De leurs propres actes, quels que soient les cas. Quelqu'un qui pique dans la caisse, qu'on soit en collégial ou qu'on soit pas en collégial, c'est lui qui est responsable. Quelqu'un qui met en danger des participants à une activité en ne respectant pas le code de la route, par exemple, il est individuellement responsable et c'est en aucun cas le président. Quand on est au pénal, c'est vraiment des responsabilités individuelles, et quand on est au civil, c'est des responsabilités collectives, collégiales ou pas collégiales. La vigilance, c'est pour les présidents, ceux qui sont dans des associations avec un président, de pas se tromper et de bien prendre le président pour ce qu'il est, c'est-à-dire simplement un représentant et non pas un chef et l'ultime responsable. Parce que du coup, on se met de fait dans ces situations d'ultime responsable.
Et sur le plan humain, psychologique, qu'est-ce qu'il faut pour réussir une formule collégiale ?
Il n'y a pas de recette magique. Je pense que d'abord, il faut bien se connaître et avoir confiance les uns dans les autres. Nous, on voit un certain nombre de principes qui sont à respecter dans une collégiale, qui est d'abord... Quand on veut changer de mode de fonctionnement, y aller doucement, par étapes, avec précaution. Il faut aussi apprendre à être plus efficace en réunion, parce que qui dit plus de collégialité dit plus de participation, donc un enjeu beaucoup plus important au niveau des réunions de conseil ou des réunions de bureau. Donc il faut, pour ne pas les multiplier, pour ne pas s'épuiser, apprendre à utiliser des outils d'animation qui font gagner en efficacité. Il faut aussi se former, aller voir ce que font d'autres associations en gouvernance collégiale, se renseigner, prendre des informations et croiser les expériences. Et puis, s'autoriser aussi des erreurs à mettre en place une collégiale quand on a tout le temps fonctionné, quand l'ensemble des adhérents ont fonctionné avec une gouvernance classique, c'est un gros changement culturel. Et donc, du coup, qui dit changement, dit des fois des erreurs, des choses, des trous dans la raquette, des décisions qui auraient dû être prises, qui ne sont pas prises. Donc, il faut, je pense, s'autoriser à apprendre. Et qui dit apprendre, s'autoriser à se tromper et pas avoir peur de ça. D'un autre côté, il faut bien prendre aussi la mesure qu'il faut mettre un certain nombre de conditions en place pour se lancer dans une collégiale. Beaucoup de gens viennent nous voir en disant « plus personne ne veut être président, faisons une coprésidence ». Moi, je leur réponds « mais personne ne veut être président et vous voulez en mettre 5 ou 6 hein. ». C'est ça, on prend les choses à l'envers. Donc, être bien clair collectivement sur le fait que on remet bien du collectif, on met de la responsabilité collégiale, donc ça nécessite plus d'engagement des uns et des autres. Donc, il faut être prêt à ça. Et puis, être prêt à se regarder fonctionner, à passer du temps sur ses modes de fonctionnement, à passer du temps sur ses façons de prendre les décisions, sur les prises de parole, comment est-ce que ça tourne, sur les temps d'analyse collective, etc. C'est vraiment important que ces conditions-là soient bien réussies et ces principes-là soient bien intégrés pour que ça puisse fonctionner. Et après, généralement, les associations, elles sont extrêmement enthousiastes, mais j'en ai pas vu qu'ils font machine arrière après avoir mis en place des collégiales.
Et quand on existe déjà, enfin quand on passe à la collégialité, il faut refaire les statuts du coup.
Du coup, il faut refaire les statuts, effectivement. C'est un excellent moyen aussi, cette étape de refonte des statuts, pour se reposer ces questions-là. De comment est-ce qu'on prend les décisions, qui est responsable de quoi a besoin l'association en termes de rôle pour exister et être efficace. Donc les statuts, c'est un peu l'aboutissement de cette réflexion. Mais de toute façon, effectivement, elle est amenée. Ouais.
On peut trouver sur le site de l'espace associatif peut-être des exemples de statuts, voire des formations éventuellement, ou pas, sur cette collégialité?
Oui, on forme à la collégialité, on fait des ateliers sur ce thème-là. Quant à avoir des statuts, on a toute une collection, nous, de statuts en collégial, d'associations qu'on a croisées, qu'on a accompagnées ou qui nous ont fourni leurs statuts. On ne les met pas de but en blanc sur le site parce que ça nécessite un petit peu d'explication. Et puis surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les associations, quand elles se lancent dans un travail de collégial, leur enjeu, c'est d'adapter vraiment des statuts à leur propre mode de fonctionnement. Et donc du coup, sortir des statuts types, pour nous, ce serait un petit peu un contresens. Donc en revanche, nous, on reçoit des structures associatives qui sont dans cette démarche-là, qui se posent des questions, et à l'issue de l'entretien, on leur propose 3-4 statuts qui pourraient correspondre à leur manière de fonctionner et à eux de faire le mix.